Ce sera du 23 au 25 avril. Le président français sera reçu en grande pompe aux États-Unis par son homologue américain. Eh bien, l'occasion de nous interroger ce matin sur les influences mutuelles entre les deux pays. On verra que ça ne date pas d'hier. France-Amérique, un échange de bons procédés. C'est le titre de ce livre que vous avez supervisé. Régis Debray, bonjour.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes philosophe? C'est un livre...
Si peu
et si tellement. C'est un livre collégial où quelques mythologies sont explorées par le prisme des échanges entre la France et l'Amérique. Ça vaut pour l'automobile, le vin, la bande dessinée, le glamour, le féminisme ou l'art. Et cet échange entre les États-Unis et la France dans l'art, eh bien, vous en êtes chargé. Annie Cohen-Solal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur ès-lettres et ancienne conseillère culturelle de l'ambassade de France aux États-Unis. Régis Debray, c'est finalement la mondialisation que vous interrogez dans ce livre. Il faudrait d'abord définir ce que renferme à vos yeux cette américanité qui irradie le monde jusqu'en France.
Écoutez, c'est sans doute l'axe de civilisation qui s'est déplacé de l'Europe en Amérique au lendemain de la dernière guerre. Mais si j'ai fait ce livre, c'est pour... Parce que j'étais un peu en colère contre un monsieur qui s'appelle Kagan, je crois, un politologue américain, qui a dit « Les Américains font la cuisine, les Européens font la vaisselle ».
J'ai du mépris là-dedans.
J'ai trouvé ça, évidemment, impérial, donc méprisant, mais surtout faux. Parce que nous avons donné beaucoup d'ingrédients et beaucoup de recettes de cuisine aux Américains. Donc, j'ai voulu, si vous voulez, montrer que il n'y avait pas subordination, mais puis qu'il pouvait y avoir collaboration et mieux encore transformation. C'est-à-dire, ils nous donnent certaines choses, nous les transformons. Nous faisons, par exemple, de la série noire un art vraiment littéraire. C'est Gallimard qui le fait. Et puis, nous leur donnons d'autres choses, dont Calvin, excusez-moi. Mais Calvin, c'est français. Ils accueillent Calvin, ils en font le néo-évangélisme qui conquiert le monde sur une base française. Enfin, on pourrait répéter ça à la fois pour la BD, pour le féminisme. On leur a donné Simone de Beauvoir aussi. Bref, on leur a donné beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que chacun se métamorphose un peu en fonction de ce qu'il reçoit. Et c'est ces allers-retours, si vous voulez, que j'ai voulu esquisser dans ce livre essentiellement collectif. Moi, je n'ai fait que tendre le micro.
L'esprit français, l'esprit européen également face à l'Amérique. Régis Debray, vous qui vénérez Paul Valéry, quel est l'esprit européen en 1938 quand le poète écrit que l'Amérique est une projection de l'esprit européen?
Oui, c'est-à-dire qu'il voyait au fond l'Amérique comme une sorte de banlieue de l'Europe. Ou éventuellement un canot de sauvetage, parce que Valéry dit dès 1939, ça pourra nous servir. S'il arrive malheur, on pourra, je dirais...
On est en 38 là.
En 38, oui, mais enfin, il pressent que l'Amérique peut être un relais, un rebond de la culture européenne. Il ne pressent pas encore, comme il le dira plus tard en 45, que l'Europe est finie. Parce qu'il a dit ça. Mais en tout cas, il a bien saisi que l'Amérique avait été enfantée par l'Europe parce que les dissenters qui débarquent au Cap Cod sont des protestants parce qu'ils ont accueilli, disons, le prométhéisme, mais aussi la photo, le cinéma, enfin, toutes choses que nous avons inventées. Et là, alors sur l'art, moi je n'y connais rien, c'est pourquoi je vais demander à Annie Cohen-Solal, qui est beaucoup plus experte que moi.
Annie Cohen-Solal, dans les échanges mutuels entre la France et les États-Unis dans le domaine de l'art, il y a un marqueur, c'est la Troisième République en France. À l'époque, c'était les Américains qui venaient chercher en France l'art, ils venaient apprendre l'art en France. Aujourd'hui, vous écrivez que c'est l'inverse. Ce transfert de souveraineté esthétique, vous l'expliquez comment ?
En 5 minutes ?
En quelques secondes.
D'accord. D'abord, je voudrais rendre hommage au livre de Régis, parce que c'est une très bonne idée. Et je salue l'évolution de sa pensée vis-à-vis des États-Unis, parce qu'à une époque, tu avais écrit des choses sur l'art américain qui étaient... Non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que tu aies pris, si tu veux, la peine de demander à des experts et que tu...
Vous ne confondez pas le politique et le culturel.
Hein. Ah ben je sais, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi.
Je n'ai pas bougé en termes politiques, mais en termes culturels, je crois qu'il y a des enrichissements mutuels considérables.
C'est vraiment.
On ne peut pas se passer d'eux. Et qu'on ne doit pas se passer d'eux.
Absolument.
Annick Cohen, on prend un exemple pour essayer d'éclairer notre propos. On va prendre la période impressionniste. Les officiels à l'époque, les officiels parisiens, dédaignent les premières œuvres de Monet et autres impressionnistes et ils participent au salon des refusés. Et c'est aux États-Unis que ces impressionnistes vont trouver un succès.
Je vous donne un exemple. À l'exposition universelle de Chicago en 1893, il y a tout un espace consacré à l'art impressionniste français. Et le délégué des Beaux-Arts français qui vient regarde ça d'un air ahuri parce que la délégation française n'a pas apporté d'impressionnistes. Donc les impressionnistes, ils viennent des collections privées américaines à l'exposition de Chicago et pas de la délégation officielle, ce qui est absolument ahurissant. Mais il faut vous dire que dans le domaine de l'art, il y a entre la France et les États-Unis une histoire d'amour-haine permanente. Et cette exposition universelle de Chicago en 1893 également, les Américains veulent faire construire une tour à Chicago qui soit plus haute que la tour Eiffel. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut montrer comme moment où il y a la première, si vous voulez, le premier face-à-face entre deux impérialismes de l'universel, la France et les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très particulier entre ces deux pays, c'est ces deux impérialismes de l'universel qui se font face. Et évidemment, l'exposition de Chicago ne fera pas une tour plus haute que la tour Eiffel. Mais les rapports vont s'inverser parce que les États-Unis sont un pays donc de pionniers puritains, dans lesquels l'artiste représente l'Europe qu'ils ont voulu fuir. Donc, puisque les grands collectionneurs en Europe, c'est l'Église catholique et les monarchies européennes. Et donc, pour de bonnes raisons, entre guillemets, pour des raisons politiques les correctes, l'art n'a pas droit de les citer chez les pionniers. D'ailleurs, chez les protestants, on ne représente pas Dieu, donc il n'y a pas de représentation.
Et parallèlement aux États-Unis à cette époque-là, c'est aussi la création des grandes fortunes,
c'est
Rockefeller.
Donc, les choses se transforment.
Et ils vont acheter les œuvres.
Absolument. Donc, il y a une transformation de la société américaine, et je pense que c'est au niveau de de l'économie, avec la création de grandes fortunes dans le dernier tiers du 19e siècle, que se créent ces barons du sucre, ces barons du pétrole, comme les Rockefeller, les Frick, les Freer, qui vont eux-mêmes se construire des collections en achetant l'art français que l'État français n'achète pas, donc les impressionnistes. Et si vous voyagez dans les musées américains aujourd'hui, vous êtes ahuri par la richesse de leur collection d'art français de la plus belle période.
Et il faudrait parler, on n'a pas le temps ce matin, du rôle de quelques marchands d'art, notamment Paul Durand Ruel, qui a fait beaucoup pour exporter les impressionnistes aux États-Unis. Cet échange de bons procédés entre la France et les États-Unis, et entre la France et l'Amérique, c'est votre ouvrage collectif, Régis Debray, vous faites partie de ceux qui pensent qu'avant de faire une Europe de l'acier, Schumann, Monet auraient mieux fait de penser à une Europe de la culture.
Oui, c'est un mot qu'on prête à Jean Monnet, sans doute apocryphe, mais qui n'a pas de contenu, parce que qu'est-ce que c'est que la culture? C'est d'abord la langue. Il aurait fallu savoir quelle langue allait parler l'Europe. Comme disait Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais je constate qu'aujourd'hui, la langue de l'Europe, c'est l'anglais. C'est curieux, d'ailleurs, c'est la langue d'un pays qui n'appartient plus à l'Europe.
Qui ne veut plus appartenir à l'Europe.
90% des textes et des communiqués de Bruxelles sont en anglais.
Régis Debray, je m'arrête là-dessus. Ouais. Vous parlez de langue, ça veut dire qu'il y aurait un peuple. Or, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a qu'un marché.
Dites-moi, vous mettez le doigt sur la plaie, là. Effectivement. Il n'y a pas de peuple européen et on a inventé un parlement avec l'idée que le parlement ferait le peuple. Ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. Généralement, c'est l'inverse. Il y a un peuple d'abord et un parlement ensuite. Donc, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Quoi qu'il en soit, je voulais répondre à ma camarade Annie. C'est vrai que l'art américain s'est émancipé. C'est en gros, après-guerre, un art fondé sur l'espace, sur l'extensif plutôt que sur l'intensif. Moi, je crois que l'Europe, c'est le continent du temps et l'Amérique, le continent de l'espace. Donc, les grands formats, l'énergie pulsionnelle.
Mais cet art,
il va revenir chez nous en position de conquérant, en position de régulateur, puisqu'aujourd'hui, disons, les canons de l'avant-garde, entre guillemets, sont démarqués des États-Unis. Donc, il y a ce rapport, je dirais, d'abord, effectivement, l'un se libère de l'autre, et ensuite, l'un capture l'autre. C'est ce que je crains.
Annie Cohen-Solal, un mot sur les surréalistes. André Breton goûtait peu la civilisation américaine. Ça n'a pas empêché les surréalistes d'avoir une influence aux États-Unis.
Capital. Breton, Masson, Matta, ce sont eux qui... qui en exil aux États-Unis vont influencer Jackson Pollock, par exemple. Mmh. Le premier maître américain qui va être respecté dans son propre pays, puisque l'artiste va acquérir un statut, c'est Jackson Pollock, qui lui est très très fortement influencé, notamment par les Native Americans, c'est-à-dire les Indiens Navajos, locaux, et qui n'a pas besoin d'aller se former en Europe, comme vous disiez tout à l'heure, au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que aussi, un grand Américain qui est Alfred Barr a créé le MoMA. Il y a encore en ce moment, pour quelques jours, je crois, l'exposition sur le MoMA à Paris à la Fondation Vuitton. Mmh. Alfred Barr a réuni au MoMA les avant-gardes modernistes européennes, russes, françaises, allemandes, tchèques, qu'aucun pays d'Europe ne pouvait rassembler à l'époque puisque l'Europe était en guerre. Donc le MoMA a fonctionné comme une Europe intégrée, comme une encyclopédie de l'art européen intégrée. Breton adorait aller au MoMA.
Pour parler de ces influences mutuelles entre la France et l'Amérique, Régis Debray, il faut prendre aussi un paramètre en compte, c'est Dieu. Ça a fait des Américains un peuple élu. Ça a quelles conséquences dans les échanges ?
Énorme, énorme. In God we trust, c'est-à-dire... l'Amérique a sur l'Europe un avantage. C'est ce qu'on appelle la providence ou la destinée manifeste. Ils ont une mission. Cette mission, elle est mondiale parce qu'ils ont un Dieu qui est lui-même unique et universel, qui leur a donné mandat de démocratiser, entre guillemets, le monde entier. C'est un mandat que les Chinois n'ont pas, que les Européens ont perdu, mais que les Américains ont. Parce qu'ils ont cette théologie, cette sorte de religion biblico-patriotique qui fait l'unité du pays, hein, qui empêche la guerre de tous contre tous. Après tout, les leaders noirs sont des révérends, hein, sont des pasteurs. Bon, donc ça crée un ciment formidable et également un dynamisme dans la politique extérieure de type messianique, épouvantablement dangereux. Mais efficace jusqu'à un certain point. Donc c'est vrai que ce Dieu, ils nous le doivent, si j'ose dire, puisque c'est tout de même Calvin et Luther, mais Calvin d'abord, qui en passant par l'Angleterre, a colonisé l'Amérique sans le vouloir. Et puis maintenant, les évangéliques reviennent chez nous pour coloniser le protestantisme historique français.
On va rester là, malheureusement, parce que la pendule tourne, c'est toujours trop court,
mais
évidemment.
C'est gentil à vous de...
Je vous renvoie, les auditeurs, à ce livre, donc France-Amérique, un échange de bons procédés que vous avez supervisé, Régis Debray, c'est aux éditions Autrement. Et parmi les contributeurs, donc merci à vous, Annie Cohen-Solal, pour les échanges entre les deux pays dans le domaine de l'art. Merci à tous les deux et bonne journée.